religieuse, aujourd'hui et demain. En compagnie de Mathieu Lavigne et de ses invités.
Bonjour à vous, ici Mathieu Lavigne au micro de Vie religieuse, aujourd'hui et demain, un rendez-vous hebdomadaire proposé par la Conférence religieuse canadienne. De nouveau cette année, nous vous présenterons à chaque semaine des entrevues et des témoignages de sœurs, frères, prêtres et de laïcs qui s'exprimeront sur des thématiques liées à la vie de l'Église et des communautés religieuses canadiennes ainsi que sur leurs engagements dans la société d'aujourd'hui et de demain. La 32e Assemblée générale de la Conférence religieuse canadienne se tenait du 24 au 27 mai 2018 à l'hôtel Sheraton Aéroport de Montréal. Cet événement, qui a lieu tous les deux ans, avait pour thème cette année « Les nuits sont enceintes, toi qui veilles, qu'en dis-tu? » Thème fusionnant un proverbe turc et un extrait de la Bible. L'Assemblée générale est une occasion pour les supérieurs majeurs membres de la CRC et leur équipe de se rencontrer, d'échanger à partir de leurs expériences, de réfléchir aussi sur les enjeux qui leur tiennent à cœur et de célébrer ensemble. Plus de 250 supérieurs de congrégations religieuses catholiques du Canada participaient à cet événement, dont Louis Cinq-Mars, frère mineur capucin, et Francine Landreville, membre de la Congrégation de Notre-Dame. C'est avec bonheur que nous ouvrons avec eux cette troisième saison de Vie religieuse aujourd'hui et demain. Louis Cinq-Mars et Francine Landreville ayant respectivement été élus président et vice-présidente de la Conférence religieuse canadienne lors de cette Assemblée générale. Avec frère Louis et sœur Francine, nous reviendrons cette semaine et la semaine prochaine sur cette 32e Assemblée générale en approfondissant ce qui fut alors ciblé comme défi, comme source d'espoir, mais aussi comme priorité pour continuer de bâtir l'avenir de la vie consacrée au Canada. Car il ne suffit pas de veiller passivement en attendant l'aurore, nous rappelle le pape François. Francine Landreville, Louis Cinq-Mars, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Bonjour. Alors, sœur Francine, frère Louis, la conférencière invitée par la CRC cette année était Elena Lacida, docteure en sciences sociales et économiques et professeure à l'Institut catholique de Paris. Dans sa conférence d'ouverture, pour situer son propos, Elena Lacida a parlé des frontières qui la traversent personnellement. Elle qui est à la fois uruguayenne et française, théologienne et économiste, chercheure universitaire et intervenante sur le terrain. J'ai le goût de vous demander, afin de mieux vous connaître, afin de mieux situer votre parole, quelles sont vos propres frontières? Alors, sœur Francine, vos propres frontières.
Alors, j'avoue que j'ai trouvé difficile de répondre à cette question-là et j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. Mais ce que j'ai trouvé, à force de réfléchir, je me suis vue à écouter les nouvelles et à lire les journaux, particulièrement au point de vue politique. Et je me suis surprise à me voir réaliser que je lis les choses comme une Québécoise. Pour moi, il est important que mon appartenance au Québec et mon appartenance à la société canadienne puissent vivre en harmonie. En ce sens que j'ai besoin que les politiques canadiennes qui se développent favorisent le développement de ce que nous sommes au Québec, dans le respect de ce que nous sommes au Québec. Disons que c'est à peu près la seule frontière que j'ai trouvée en moi, mais je pense que la plus importante, c'est à mesure que je vieillis, à mesure que j'avance en âge, c'est ma frontière, c'est cette cloison entre ce désir que j'ai de vivre ce à quoi Jésus m'invite à vivre, et la difficulté que j'ai à le vivre. Alors, c'est peut-être la frontière la plus importante que je découvre quotidiennement.
Oui. Et de votre côté, frère Louis Cinq-Mars, les frontières qui vous traversent ou qui vous habitent?
Un peu comme sœur Francine, hein, j'ai trouvé que c'était une bonne question, puis tu m'as fait réfléchir beaucoup. J'ai même essayé d'imiter Mme Lacida, j'en ai trouvé trois. Hein. En tout cas, j'en ai défini trois. Est-ce que ce sont des vraies frontières? Je ne sais pas. Mais la première, je dirais, moi, je suis un gars de Québec. J'ai grandi entre la banlieue puis la forêt. Hein? Et depuis 9 ans, je vis ici à Montréal, dans le quartier Saint-Michel, un quartier extrêmement multiculturel, multireligieux. Alors, c'est pour moi En deux mondes. Et ben, ça, c'en est une, mes origines, et aujourd'hui, là où je vis, là où j'ai les pieds avec mes confrères, mes frères depuis bientôt 10 ans. Une autre frontière que j'ai découverte en préparant, c'est dans ma vie de jeune adulte, j'étais très proche des communautés nouvelles.
Oui.
Et j'ai vécu même 3 ans avec une communauté nouvelle en France. J'ai travaillé à l'Arche plusieurs années aussi par la suite. Et par contre, je me suis engagé dans une communauté religieuse dont la règle a été écrite au Moyen Âge.
Ah, oui.
Donc, je me suis dit, ah tiens, c'est deux sources en moi. Et puis une autre frontière, où c'est celle peut-être de ma formation professionnelle. Moi, j'étais travailleur social avant d'entrer dans notre ordre. Formation professionnelle, séculière. Puis voilà, aujourd'hui, je me trouve dans le monde pastoral, spirituel, religieux. Donc, deux univers aussi qui cohabitent en moi. Deux sources, des frontières et des sources en même temps.
Merci d'avoir répondu à cette question. On vous connaît déjà un peu mieux.
Merci.
Alors, je rappelle, la 32e Assemblée générale de la CRC se tenait à Montréal en mai dernier et elle avait pour thème « Les nuits sont enceintes, toi qui veilles, qu'en dis-tu? » Alors, Sœur Francine, Frère Louis, est-ce que les communautés religieuses vivent présentement ce qu'on pourrait appeler une nuit? Est-ce qu'on manque collectivement même de lumière? En fait, c'est un peu deux questions. Est-ce qu'il y a une nuit que traversent, si on peut dire, les communautés religieuses? Est-ce que collectivement aussi on traverse une nuit, Sœur Francine?
Oui, je pense que les communautés religieuses traditionnelles, je ne pourrais pas me prononcer pour les communautés religieuses nouvelles. Il y a des communautés religieuses nouvelles qui existent. Et je pense que ce sont surtout ces communautés qui attirent des personnes désireuses qui se sentent appelées à vivre la vie religieuse. Alors, en ce qui concerne les communautés plus traditionnelles, je pense que comme nous vivons une nuit certaine comme groupe social, par rapport à ce qui a déjà été vécu il y a quelques décennies, les communautés religieuses avaient des institutions, elles prenaient une place importante au niveau des principaux systèmes, le système d'éducation, le système hospitalier, elles avaient une place importante. Alors, nous n'avons plus cette place-là depuis plusieurs années. Je dirais qu'on est comme entré dans nos terres. Nous avons moins d'impact comme groupe social dans la société québécoise. Alors, nous vivons sûrement une nuit comme groupe social, mais comme communauté religieuse, si je me fie à ce que je vis dans ma propre communauté, la Congrégation de Notre-Dame, il y a quand même une dynamique, il y a un dynamisme de fond qui fait que, d'abord, nous sommes toujours à la recherche de ce qui nous apparaît être la volonté de Dieu sur la congrégation aujourd'hui. On veut que notre congrégation demeure une communauté vivante, en ce sens d'accueillir ce que Dieu veut bien qu'elle vive aujourd'hui. Il y a un dynamisme au niveau de la recherche commune. Les recherches se font, chacune personnellement, on désire, je pense, vivre ce à quoi Jésus nous invite, mais comme congrégation, on est à l'affût de ce à quoi Dieu veut pour nous aujourd'hui. Alors, il y a une dynamique de recherche que nous vivons entre nous, ça c'est certain. C'est peut-être moins apparent, parce que nous avons moins de rayonnement au niveau de la société, mais entre nous, il y a quand même une dynamique de recherche qui est vivante et qui soutient la vie,
Diriez-vous que, à la CND, à la Congrégation Notre-Dame, vous veillez, vous guettez au loin des signes d'avenir?
Je pense que oui. Je pense que nous croyons à la vie religieuse, nous ne savons pas comment elle va se déployer dans l'avenir. Elle se déploiera, mais nous ne savons pas comment.
Oui.
Et je pense que nous sommes ouvertes avec le fait que ça puisse se déployer autrement que ce qui a été vécu à venir jusqu'à présent. Et c'est heureux comme ça. Oui. C'est correct. C'est bien.
Oui. Et de votre côté, frère Louis, est-ce que collectivement on vit une nuit et est-ce que la vie religieuse, est-ce que les communautés religieuses vivent présentement une nuit?
Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec Francine. On vit une nuit, mais la nuit c'est pas la mort, c'est pas la fin, c'est beau la nuit aussi. Moi je pense oui, effectivement on vit une nuit. Les chemins les chemins pour la vie religieuse ne sont pas visibles, ne sont pas clairement visibles comme ils ont pu l'être par le passé. Et il faut nous laisser guider, il faut chercher, il faut discerner, un peu comme les rois mages, hein, faut nous laisser guider par des étoiles, des signes, mais c'est des promesses. Alors on est guidé par des promesses. Et ça, c'est très, très précieux. On n'est pas guidé par des certitudes ou par nos propres forces. On est guidé par des promesses, les promesses de Dieu envers nous. Ça, elles n'ont pas changé. Mm-hmm. Et on est guidé par la fragilité aussi. La nuit, c'est l'expérience de la fragilité. Et je pense que la fragilité, c'est très sain. Ça nous humanise, ça nous pousse vers la collaboration, ça nous pousse à simplifier, à être créatif. Et tout ça, c'est très, très sain pour la vie religieuse au Québec, je crois. Mm-hmm. Donc, pour moi, oui, on vit une nuit. Et je suis reconnaissant qu'on soit dans une nuit. C'est beau, la nuit. Il y a du bon là-dedans.
En quelque sorte, c'est une façon aussi d'ouvrir l'avenir. Je veux dire, la fragilité force à regarder ailleurs, à être vigilant.
Oui,
on parle de
oui.
sentinelle, on parle de veiller, on parle de vigile, on pourrait dire, en quelque sorte.
Oui.
Donc, c'est être vigilant et rester... aux aguets, nous voir qu'est-ce qui va pointer.
C'est un grand thème de l'Assemblée générale dont on a parlé tout à l'heure avec Mme Lassida. Elle a beaucoup, beaucoup insisté sur la fragilité, l'accueil de la fragilité.
Sortir de la sécurité.
Sortir de la sécurité, ne pas voir la fragilité comme une menace, mais comme une grâce, puis comme l'occasion pour nous de se recentrer sur les promesses et de compter les uns sur les autres.
Compter les uns.
Et ça, c'est très... Ça, on a besoin de ça.
L'interdépendance.
C'est une lumière dans une vraie nuit qui est celle de l'autonomie, puis de chacun pour soi, puis du self-accomplishment. Ça, c'est
il y a quelque chose... Les communautés religieuses prennent en oblique la société actuelle, donc prennent à contrepoint. Entre autres, on est dans une société qui valorise la sécurité, donc vous placez dans une posture de fragilité. Donc, c'est intéressant et c'est créatif. Ça amène de la créativité.
Puis, on doit aussi dire, on se place dans cette posture-là et on la partage avec une grande partie de la population aussi.
Il ne
faut pas l'oublier.
Oui. Et parmi les nombreuses questions qui ont été discutées dans le cadre de la dernière Assemblée générale de la CRC, il y a la question écologique. C'est une question qui recèle plusieurs enjeux. Est-ce que vous diriez qu'elle est notamment, ou qu'elle porte notamment un enjeu spirituel? Sœur Francine.
J'avoue que j'ai été, quand Mme Lassida a dit ça à l'occasion de la conférence, j'étais un petit peu surprise. Mon Dieu, que je me suis dit à moi-même, qu'est-ce qu'elle veut dire par ça? Et je ne peux pas dire qu'elle l'a beaucoup développé, mais en me préparant à cette entrevue-là, je me dis, qu'est-ce qu'elle a bien voulu dire par c'est un enjeu spirituel? Je pense que la crise écologique que nous vivons est l'attention que nous devons porter, que nous sommes amenés à porter au respect de l'écologie, ça développe en nous le sens de la gratitude, il me semble. Nous expérimentons, nous prenons conscience avec la crise de l'écologie, le mauvais traitement de la planète, que c'est elle qui nous nourrit. Nous l'avons reçue, elle nous a été donnée. Cette création-là nous a été donnée. Nous en avons usé beaucoup, peut-être d'une façon beaucoup trop inconsciente. Mais le fait qu'elle soit menacée, que la création soit menacée, ça nous aide à prendre conscience de ce cadeau immense que Dieu nous a fait.
Et de la fragilité,
de la fragilité de ce cadeau. Nous l'avons fragilisé en l'exploitant d'une façon trop importante, d'une façon inconsciente. Mais maintenant qu'elle est menacée, que nous voyons les fragilités que ça cause à l'humanité, les menaces que ça suppose pour l'humanité. Je pense aux manques d'eau. Je lisais justement un article récemment de quelqu'un qui disait qu'on a besoin des plantes, on a besoin des arbres. C'est à cause d'eux que nous respirons. Alors, la crise écologique nous suscite en nous des sentiments de reconnaissance et de gratitude. Et en ce sens-là, pour moi, c'est vraiment un enjeu spirituel.
Oui.
Et cette crise-là fait appel à notre responsabilité comme personne humaine. nous sommes responsables du maintien de cette terre qui nous nourrit, qui nourrit la vie à tout point de vue.
Frère Louis, sur cet aspect de la crise écologique comme enjeu spirituel ou portant un enjeu spirituel.
Là, c'était une lumière pour moi à la conférence avec Mme Lacida. Elle a beaucoup insisté pour dire la crise écologique n'est pas une crise à côté des autres. Oui. Il n'y a pas la crise écologique, la crise économique, la crise des réfugiés, la crise des guerres civiles. Elle dit c'est la crise. Mm-hmm. Et elle a dit c'est le génie du pape François, dans Laudato aussi, d'avoir saisi que c'est la crise qui englobe toutes les autres et qui va nous aider à faire face aux grands défis auxquels on est confronté aujourd'hui comme humanité. Parce que ça remet, comme disait Francine, ça remet en question notre attitude, notre posture dans la création. Est-ce qu'on est les propriétaires ou on est vraiment partie de cette création? On est interdépendant avec cette création. Puis ça remet aussi en question quelle valeur on donne à la vie aujourd'hui, oui, dans notre société. Quelle valeur on donne à la vie sous toutes ses formes, sous toutes ses expressions, à toutes les clameurs qu'on entend.
Oui.
Alors, c'est la crise qui vient questionner le sens qu'on donne à la vie puis oui, à être un être humain, créé, qui partage cette expérience d'être créé avec les pierres, avec l'eau, avec... Nous sommes tous issus d'une même source.
Là, on entend le capucin
le parler.
Et vous avez évoqué les clameurs, mais justement, dans son encyclique Laudato Si, le pape François invite à écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Alors, dans cette optique, la crise écologique, elle ne peut pas être dissociée du monde économique, hein, vous l'avez évoqué, frère Louis. Alors, le monde de l'économie, pour Elena Lacida, elle l'évoquait à l'Assemblée générale, le monde de l'économie doit créer non pas des situations de domination, mais permettre plutôt de générer des relations. Mmh. Moi, personnellement, j'ai rarement pensé l'économie en ces termes-là. Comment les communautés religieuses peuvent-elles contribuer à ce changement de culture, à cette nouvelle façon de voir et de vivre l'économie comme un lieu créateur de relations plutôt qu'engendrant des situations de domination? Alors, sœur Francine.
Bon, la connaissance que j'ai de certaines communautés permet de dire que certaines communautés ont des fonds qui permettent d'appuyer le travail de plusieurs organismes communautaires. Les communautés religieuses dont les membres ont enseigné ou dont les membres ont travaillé dans les hôpitaux ont cotisé à des fonds de pension qui font en sorte que maintenant, elles peuvent partager ce dont elles n'ont pas besoin pour prendre soin de leurs membres. Alors, je sais par expérience que plusieurs communautés soutiennent financièrement beaucoup, beaucoup d'organismes qui partagent les valeurs, des communautés religieuses et des valeurs particulières à chacun des groupes communautaires.
Oui.
Et à travers cela, se développent des partenariats. Et comme étant donné que j'ai été économe pendant plusieurs années, j'ai été responsable des dons que ma communauté pour laquelle ma communauté était sollicitée, et ça fait beaucoup de bien. Ça nous fait beaucoup de bien de rencontrer des personnes qui travaillent dans des organismes communautaires à valoriser les gens, à permettre aux gens de se développer. Ça nous fait du bien de constater que même si nous ne pouvons plus le faire activement, nous pouvons soutenir des personnes qui s'engagent dans ces organismes.
Ils deviennent vos bras et vos mains.
Ils sont nos bras et nos mains. Puis ils sont leurs bras. ils sont leurs bras et leurs mains.
Il y a une interdépendance.
Une interdépendance. C'est magnifique ce que nous pouvons vivre dans le partage de ce que nous sommes. Oui. Nous, maintenant, quand c'est possible de partager ce que nous pouvons partager, mais d'être nourri par ce qui est tellement beau, par ce qui se vit dans un très grand nombre d'organismes communautaires au Québec.
Oui. Et frère Louis, sur cet aspect, peut-être cet impact que peuvent avoir les communautés religieuses sur cette redéfinition de notre vision de l'économie ou de faire l'économie.
C'était une très bonne question également, puis des bonnes intuitions de Mme Lacida. Je pense qu'on doit aussi se remettre en question les communautés religieuses, parce que on a été un peu pris au piège. On est entré, nous aussi, un peu dans la logique de la consommation ou dans la logique des placements qui vont bien nous apporter, qui vont créer des surplus.
Ben oui.
Hein? Et j'espère que c'est un travail qu'on pourra faire au cours des deux prochaines années aussi. Comment nos moyens, nos choix, nos décisions ont comme finalité des relations, de la communion. Il y a un champ qui s'ouvre pour nous, les religieux, religieuses, prophétiques, puis nous, je crois qu'on doit réinvestir ce champ-là. Et je trouve ça très intéressant. Elle disait, consommer moins n'est pas une réponse suffisante. Consommer différemment, recycler, n'est pas une réponse suffisante aux enjeux de l'économie aujourd'hui. Il faut replacer la communion et les relations au centre de nos choix économiques. Je pense que ça, je l'entends, et on doit continuer à le travailler, les religieux, religieuses. Je voudrais juste donner trois exemples concrets. Trois exemples concrets, très petits, mais ma petite fraternité, on est cinq frères, nous, dans le quartier Saint-Michel. Cet été, on a décidé de faire alliance avec un organisme communautaire, je ne le nommerai pas, mais pour avoir chaque semaine notre panier de légumes bio. Mm-hmm. Hein? Et de soutenir donc des producteurs qui sont à Laval. Qui sont locaux.
C'est ça, oui.
Et c'est des jeunes producteurs. Et chaque semaine, un soir précis, on va chercher notre panier de légumes. Et là, on crée
une relation.
Oui. Mm-hmm. On crée une relation avec un organisme qui a un projet, un très beau projet. T'sais? Et donc là, la relation est au centre. Pas parce que ça nous coûte moins cher, c'était pas ça notre objectif, la relation. Un autre exemple que je te donnerais, notre sanctuaire à Pointe-aux-Trembles, cet été, a décidé de mettre sur pied 30 espaces de jardin communautaire. On ne va pas faire d'argent avec ça, au contraire, on en perd. Hein? On investit comme communauté, mais on crée des relations avec des gens qu'on ne verrait pas autrement, qui ne viendront pas aux activités du sanctuaire, mais qui vont venir avec leur famille travailler leur jardin communautaire. L'autre piste qu'a ouvert Mme Lacida aussi, là, peut-être les communautés religieuses, on pourrait travailler, là, c'est celle du microcrédit. Je suis d'accord avec Francine, toutes nos communautés, on est bien structurés pour donner et soutenir des organismes communautaires, puis on le fait année après année, fidèlement et généreusement, en particulier les communautés féminines. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas développer aussi le microcrédit? Où on prend le risque avec des personnes de soutenir des petits projets et de prêter.
Très présent dans certains pays du tiers-monde.
Oui, en Inde en particulier, c'est très, très développé le microcrédit. Si on l'a moins développé, ben voilà peut-être
une voie intéressante
pour nous. Oui. Ouais.
En terminant, une autre question a mobilisé les membres de la CRC lors de la dernière Assemblée générale, c'est la question autochtone, qui est une autre priorité qui a été ciblée par les religieuses et religieux canadiens. Une résolution visant à promouvoir davantage les appels à l'action du rapport de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada a été votée et un plan d'action va être élaboré en ce sens. Alors, ma question, quel rôle, quelle part peuvent concrètement prendre les communautés religieuses dans la réconciliation avec les peuples autochtones et dans leur guérison? Sœur Francine.
Pour nous, à la Congrégation Notre-Dame, nous avons eu des sœurs qui ont travaillé pendant plusieurs années sur la Côte-Nord et il y en a encore une qui est là depuis 40 ans. Alors, elle a travaillé en pastorale, elle a même appris la langue montagnaise. Elle a traduit la Bible en montagnais. Alors, ça lui a permis d'être proche, de se faire très proche des Innus qui sont sur la côte nord. Maintenant, dans le cadre de cette enquête, dans cette commission de vérité et réconciliation, elle est amenée à écouter des personnes qui ont vécu des expériences très, très pénibles. Elle sait que sa présence actuellement est bienfaisante pour ces peuples-là. Oui. Alors, pour nous, à la Congrégation Notre-Dame, donc, elle est la seule maintenant qui demeure là, mais pendant plusieurs années, pendant au moins 30 ans, à Natashquan, il y a eu plusieurs sœurs qui ont œuvré auprès des peuples autochtones sur la Côte-Nord. Alors, nous sommes sensibilisés à l'importance d'être présente auprès d'eux.
Et Frère Louis, de votre côté, sur la question autochtone et sur le rôle que les communautés religieuses peuvent jouer dans la réconciliation et la guérison.
Il y a 94 résolutions, hein, si je ne me trompe pas, dans le rapport de la commission.
Appel à l'action.
Oui. Et il y en a 11 qui concernent directement les religieux religieuses et on a voté, donc tu le soulignais tout à l'heure à l'Assemblée générale, de continuer à travailler, à répondre et à entrer en action. Première chose, je pense qu'on doit, les religieux religieuses sur le terrain, comme dit bien Sœur Francine, on est présent, on doit écouter beaucoup. Écouter sans juger, puis écouter sans avoir peur d'être jugé aussi. Ça, oui. C'est l'autre peur qui peut des fois limiter notre capacité d'écoute. Écouter la vérité, gratuitement, oui. La réalité de la souffrance. Je pense que c'est aussi la vocation des religieux religieuses. Après ça, on doit entrer en relation, on a parlé tout à l'heure, créer des relations et des processus de dialogue. Le pape insiste beaucoup sur l'importance d'initier des processus. D'initier, par exemple, il y a ce processus, le cercle de Guadeloupe au niveau canadien, qui est un processus, un lieu de rencontre, un lieu d'écoute, un lieu de mise en commun et de la souffrance et de l'espérance de guérison. Je vois aussi un champ d'action important pour nous. Dans beaucoup de communautés religieuses, actuellement, nous accueillons beaucoup de frères et de sœurs qui viennent de l'étranger, qui viennent vivre avec nous et qui ont une connaissance très, très limitée de notre histoire. Donc, je crois que créer des rencontres entre ces frères venus d'ailleurs, ces frères et sœurs venus d'Afrique, venus d'Asie, et les peuples autochtones ici, c'est une piste également.
Oui.
Ma communauté, on travaille sur une rencontre comme celle-là à l'automne avec des Amérindiens de la région du Lac-Saint-Jean et nos frères venus de l'Inde, Madagascar, Québécois. Donc, il y a là
des lieux
de dialogue, oui, c'est ça.
Et de rencontres.
Et de rencontres, et d'ouverture à l'expérience de l'autre.
Ouais. Ben, Francine Landreville, Louis 5 Mars, merci beaucoup pour votre présence en studio aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci.
De rien.
Alors, je rappelle que Francine Landreville est membre de la Congrégation de Notre-Dame et qu'elle est la vice-présidente de la Conférence religieuse canadienne. De son côté, Louis 5 Mars est frère mineur capucin et président de la CRC. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Vie religieuse aujourd'hui et demain, une émission proposée par la Conférence religieuse canadienne et financée par la Fondation canadienne de la vidéo religieuse. Un amical merci à Pierre Degagné à la régie. La semaine prochaine, nous retrouverons avec plaisir Francine Landreville et Louis 5 Mars afin de poursuivre cette réflexion sur la vie consacrée dans la foulée de la dernière Assemblée générale de la CRC qui se tenait en mai dernier à Montréal. Je m'appelle Mathieu Lavigne et je vous invite d'ici là à rester à l'antenne de Radio-VM.